Bienvenue dans la saison 2 d'À l'écoute de sa voix, ou à l'Ève pour ceux qui aiment les raccourcis. À l'Ève, ce sont des interviews de personnes qui ont fait leur coming out spirituel. Je donne la parole à des personnes incroyables, de toutes générations, de toutes opinions, qui ont le courage de vivre leur spiritualité au grand jour. Leur partage inspirant va vous montrer qu'il est possible de sortir de son placard spirituel et de vivre plus heureux encore.
À l'écoute de sa voix, le podcast du coming out spirituel.
La spiritualité, c'est pas un concept à suivre à la lettre pour arriver à une fin en particulière. Il n'y a pas de fin, en fait. Enfin, de finalité, fin dans le sens finalité. Il n'y a pas de finalité, c'est un voyage qui dure toute la vie. Tous les jours, on apprend, tous les jours, on découvre. En fait, on est à l'école sur Terre.
Je suis Christine Dejoigny et je me pose des questions sur la spiritualité. Peut-être vous êtes comme moi et vous cherchez des réponses. Ça tombe bien, aujourd'hui j'ai rendez-vous avec Suzy Fratello. Vous ne la connaissez probablement pas sous ce patronyme, mais plutôt sous le nom de la sorcière moderne. Même si la fête d'Halloween était il y a quelques jours, c'est toujours le moment de parler de sorcellerie, de magie et de mystère. Mais aujourd'hui, il n'est pas question de marque de balai magique ou de la meilleure incantation pour obtenir une augmentation. Non, Suzy va nous parler de connexion mystique et de médiumnité. Après s'être libérée d'un travail purement alimentaire, Suzy s'est créé un métier sur mesure qui allie ses deux passions, la psychologie et la spiritualité. Par le biais de la guidance, elle utilise ses perceptions extrasensorielles à des fins d'accompagnement vers une meilleure connaissance de soi. Elle ne dévoile pas l'avenir et met simplement en lumière les nœuds à dénouer et le potentiel pour y parvenir. Elle le dit elle-même, et vous l'entendrez dans un instant, la vie est une école où l'on apprend sans cesse. Elle souhaite se former à une pratique plus thérapeutique, axée sur la libération émotionnelle et énergétique. Elle nous parle de son arrière-grand-mère, du bord de mer un peu sauvage et d'une rencontre angélique. Voici son histoire.
Bonjour Suzy.
Bonjour Christine. Alors, comment vas-tu?
Je vais très bien, merci. Suzy, qui es-tu?
Je suis une petite étoile qui est venue s'échouer sur Terre pour réapprendre comment briller, se réapproprier son essence en fait, trouver qui on est et aligner en fait toutes nos pensées, nos paroles, nos actes et faire des choses en fonction de ça et s'épanouir tout simplement. Plus classiquement, je m'appelle Suzy, j'ai 35 ans et je vis sous le soleil de Marseille. Pour le moment, il y a des petits projets en cours de sortir de la ville et de vivre une vie justement plus alignée avec nos valeurs de famille, d'attachement à la nature. Mmh. Voilà, se rapprocher d'un lieu où on vibre en fait, tous ensemble, vraiment quelque chose, un lieu où tout nous parle et où il y a une connexion.
Qu'est-ce que peu de personnes savent sur toi ?
Que je suis médium. Ça, je ne le crie pas sur tous les toits. C'est juste du sous-entendu, c'est pas quelque chose que je vais crier parce que j'aime pas forcément ce terme à la base. Je le trouve très connoté en fait, et dans l'imagerie, dans l'inconscient collectif, ça appelle à des choses pas forcément raccord avec ce que je peux vivre en réalité. J'en parle assez librement avec d'autres mots, avec mes propres mots.
Quand tu en parles avec tes propres mots, tu dis quoi par exemple ?
Je parle beaucoup de connexion mystique, une connexion à soi, vraiment quelque chose d'intérieur. On a tendance justement à rapprocher la médiumnité avec quelque chose qui vient de l'extérieur, des choses qui nous assaillent. Et moi, je ne le vis pas comme ça. Je le vis vraiment comme quelque chose qui est en moi et qui sort, voilà, qui jaillit et qui retentit autour. Je le vois comme ça.
Ok, donc le mouvement qui vient de l'intérieur et qui va vers l'extérieur.
C'est ça. C'est ça. Et qui est connecté, en fait, à quelque chose de beaucoup plus grand, à tous les autres êtres, à toutes les autres étoiles, en fait. Plus j'avance sur ce chemin-là, et plus je m'en rends compte, et ça a quelque chose de magique, en fait.
Alors, la magie, on peut parler aussi de la magie du réveil. Je sais, c'est tiré par les cheveux, mais bon, celle-là, tu dis que t'as une transition. Mais quelle est ta toute première pensée au réveil ?
Eh bien, je vais faire la transition dans l'autre sens. C'est-à-dire que moi, je pense à mes rêves quand je me réveille. Ils sont très, très prégnants. Il se passe beaucoup de choses dans cette vie onirique. Il y a pas mal de messages, il y a pas mal de visions un peu étranges, de vie qui se passe un peu au-delà. Enfin, en tout cas, c'est un ressenti. Hein. Je ne dis pas que c'est exactement comme ça. Et c'est vrai que quand je me réveille, souvent, je dis que je n'ai pas les yeux en face des trous. Et ça dure un certain temps dans la journée parce que j'ai l'impression d'être dans l'entre-deux, souvent. Oui. Et c'est pas forcément très agréable non plus. Les rêves ont cette prégnance chez moi d'être vraiment là au réveil. Et des fois, c'est fantastique parce que ça appelle à certaines choses et ça fait écho à d'autres choses qui se vivent dans la réalité. Et voilà, donc quand je me réveille, je pense à mes rêves. Il y a des choses, il y a des mots, il y a des phrases, il y a des images très parlantes qui me permettent en fait de faire des liens et d'avancer sur certaines choses, qu'elles soient personnelles ou qu'elles font référence à autrui. Et ça aussi, c'est magique en un sens. C'est là qu'on sent qu'on est vraiment connecté à quelqu'un. Des fois, ce n'est pas de façon volontaire, mais on a des informations, des dates précises, par exemple. Il y a quelques années, donc, j'ai perdu mon grand-père. C'est un peu aussi le moment où j'ai découvert, conscientisé ma médiumnité. Quelques mois avant, donc, j'ai reçu cette information en le voyant qu'il allait partir. Dans un rêve, j'ai eu la date de sa mort. Dans ce rêve, ça parlait pas de lui, ça avait rien à voir. Et il y avait cette date qui ressortit. Au réveil, voilà, j'étais encore dedans et je me disais, ça alors
Tu savais que ça allait être important.
Ouais, mais sans vouloir non plus y croire, tout ce que j'avais ressenti est arrivé à cette date précise, en fait. Enfin, moi, je croyais que c'était mon imagination avant, quand j'étais plus jeune, tout ce qui se passait. Et là, c'était vraiment, il y avait une réponse. Que faire avec ça? Voilà. La spiritualité, pour moi, c'est vraiment une rencontre avec soi-même. C'est aller au fond de soi, rencontrer ses zones d'ombre et en faire sa force, en fait. S'illuminer, en fait. Moi, j'en reviens à l'image de l'étoile, mais c'est tout à fait ça, en fait. La spiritualité, c'est pas un concept à suivre à la lettre pour arriver à une fin particulière. Il n'y a pas de fin, en fait. Enfin, de finalité, fin dans le sens finalité. Il n'y a pas de finalité, c'est un voyage qui dure toute la vie, tous les jours on apprend, tous les jours on découvre. En fait, on est à l'école sur Terre. Je le vois vraiment comme ça. Enfin, on arrive ici, on expérimente la dualité, vraiment, sa propre dualité, puis la dualité dans tout ce qui se passe autour. Les expériences qu'on pense négatives, elles ne sont pas négatives. Elles sont là parce qu'elles ont une leçon. Et il y a toujours quelque chose à apprendre et à développer. Et c'est ce qui nous permet d'avancer, en fait, et comme on dit, s'élever. C'est une façon de se regarder, de regarder le monde et d'avancer vers quelque chose, enfin vers un mieux-être en fait et un mieux-vivre, voilà.
Et du coup, donc ce mieux-être, ce mieux-vivre que tu expérimentes, donc on va dire de façon plutôt consciente depuis la date du décès de ton grand-père, quelle est la place justement de cette spiritualité dans ta vie ?
Ce que je ressens, c'est qu'il n'y a pas de place en particulier, je n'ai pas ouvert une pièce. Oui. Pour la spiritualité. Elle est là, autour, et en moi, et tout le temps. Un apprentissage, tout simplement. Et je ne dis pas non plus que je suis arrivée à un stade où j'ai tout compris de la vie. Bien au contraire, c'est, comme je le dis, on est à l'école. Oui. Donc voilà, il y a tout un lot d'expériences qui se profilent. Et la spiritualité, au sens où je l'entends, aide en fait à voir différemment les choses. En fait, non, c'est se poser et dire si ça va mal, déjà, ça vient d'où ? Ça ne vient pas de l'extérieur, ça vient dans moi. C'est ma façon de regarder les choses qui me font dire que ça va mal. Mmh. Essayer justement de se recentrer et de comprendre et pas de rejeter, en fait, parce que tout ce qui est catalogué de négatif, c'est un appel de l'âme pour dire hey, regarde là. Ça te fait mal, pourquoi ? Réfléchis, pourquoi ça te fait mal ? C'est parce que ça appuie sur quelque chose d'important, sur une valeur qui est peut-être mal vécue, justement. Donc, réajuste ton tir et vois quelle est cette valeur, comprends qui elle est dans tous tes choix, tes paroles, tes pensées, tes actes. Aligne-toi à ta valeur et c'est là qu'est la voie, en fait.
Comment tu la vis, ta spiritualité ? Comment la voix ? Tu parlais de justement voix. Merci pour le clin d'œil, même s'il était involontaire, j'aime beaucoup. Concrètement, la spiritualité, comment elle s'exprime ? Comment tu la vis dans ta vie ? Est-ce que tu as des rituels ? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu fais tout le temps ou justement tu veilles à ne pas faire les choses toujours de la même façon ?
J'ai déconstruit les rituels, en fait. Quand j'ai pris conscience, en fait, de ma médiumnité, je suis tombée dans le panneau, en fait. De faire comme tout le monde, puisque de toute façon, voilà, on part de rien. On se référence à d'autres personnes qui ont vécu plus ou moins la même chose, mais on vit tous la médiumnité de façon différente. Il y a autant de médiumnité que de personnes sur Terre. Donc, je me suis heurtée à ça, déjà. J'ai suivi un peu le moule et les rituels, et en me rendant compte que ça ne résonnait pas en moi et que, justement, voilà, j'ai appris à déconstruire tout ça pour faire ma propre expérience. Je médite, j'ouvre la porte par la méditation parce que j'ai eu besoin de cadrer à un moment donné ce qui se passait, parce que je recevais beaucoup d'informations un peu de façon foutraque et je ne savais pas quoi en faire et finalement ça se gérait assez mal. Et très naturellement, la méditation s'est imposée. Alors, j'ai eu beaucoup de mal au départ parce que justement, ben après, j'ai un petit côté rebelle aussi qui fait que j'aime pas suivre le consensus. Donc, je déconstruis encore une fois et pour reconstruire à ma façon, j'ai eu cet élan vers tout simplement le fait de se recentrer, de trouver le calme en soi pour ouvrir cette porte et vraiment pour cadrer, pour dire ça se fait à ce moment-là. Et pas forcément à n'importe quel moment. Voilà, parce que ça pouvait vraiment venir de façon très intempestive et c'est un peu bizarre à vivre déjà pour moi et puis pour les gens qui sont autour de... parce que bon, on est vite catalogué un peu beaucoup perché quand même.
Ouais, je comprends. Et du coup, donc, tu sais, c'est le podcast du coming out spirituel. Donc justement, comment on passe du statut vu par les autres, attention, de non perché à perché? Comment ça s'est passé?
En fait, moi, j'ai toujours été perchée, je pense. Et j'ai toujours été cataloguée comme telle, même si je voulais prétendre le contraire. J'ai toujours eu cette sensation depuis toute petite que j'étais bizarre. Pas comme tout le monde. Et j'aimais pas du tout ça. C'était très inconfortable à vivre. Voilà, c'était une douleur de vivre ça comme ça. Et donc, j'ai essayé de rentrer dans le moule et de faire comme tout le monde, d'être comme tout le monde. C'était un déni de soi. Ça se vit, en fait, quand on est dans l'hyper-contrôle. Ce qui s'est passé pour moi, c'est que j'étais tellement en manque de repères parce que je m'étais construit un personnage avec tout le décor en papier mâché derrière. J'étais devenue maniaco-obsessionnelle sur plein de choses et c'était simplement pour ériger des repères autour de moi. La vie a fait que elle m'a donné une grosse claque. Et il y a eu l'appel de mon âme à ce moment-là. Me dire, oh, tu te réveilles là parce que ça ne va pas du tout, tu vas mourir. J'ai vraiment eu cette impression justement de mourir au sens spirituel. C'est là que, en fait, tout a basculé. Voilà, j'ai vécu un drame personnel juste avant le décès de mon grand-père, en fait. Et tout était lié, mais tout était fait, en fait, pour ça. J'ai vraiment l'intime conviction que rien n'arrive au hasard et que toutes ces catastrophes, cataclysmes qu'on peut vivre, en fait, c'est l'âme qui se manifeste et qui dit « Là, tu te plantes, tu es en train de prendre un chemin qui n'est pas le tien, tu vas droit dans le mur, réveille-toi. » Et c'est ce qui s'est passé. Parce qu'en réalité, derrière le cataclysme, quand les choses finissent par décanter doucement et qu'elles vont dans le bon sens, mais dans le bon sens pour tous les gens autour qui ont été impactés, en fait. C'est là qu'on se rend compte que c'était un mal pour un bien. C'est arrivé pour que toutes les personnes concernées retrouvent leur juste place. C'est là qu'a démarré tout le cheminement et ça m'a permis d'ouvrir les yeux. C'était extrêmement douloureux. Je suis rentrée en moi pour copiner avec mes ombres parce que je ne les voulais pas. Je ne voulais pas les regarder, ces ombres. Mais au final, les fuir... c'est pas une solution. Simplement, il faut leur tendre la main parce que c'est elles qui ont une réponse, qui ont quelque chose à nous dire. Et c'est elles qu'il faut écouter. Et ensuite, quand on prend conscience de sa propre responsabilité dans ce qui a pu arriver de dramatique et de se rendre compte que c'était pas pour rien, que derrière, il y avait vraiment quelque chose d'important qui se jouait, c'est là qu'on se rend compte du pouvoir qu'on a, ce qu'on peut créer avec ses intentions. Toutes nos pensées sont créatrices, en fait. Et quand on se rend compte de ça, on peut vraiment changer le cours de sa vie, en fait. Tout devient très fluide, en fait.
Comment a été vécu, justement, le fait de passer de « bah voilà, ça c'est un masque que j'ai porté et maintenant j'enlève le masque ». Comment ça a été vécu par ton entourage ?
Au début, ils n'ont pas compris. Et moi, je ne comprenais pas non plus.
Tu ne comprenais pas qu'ils ne comprennent pas, c'est ça ?
Non. Sur le coup, je ne comprenais pas trop ce qui se passait. Bah, je me suis rapprochée de lecture, je commençais à me poser beaucoup de questions. Et puis j'écris beaucoup aussi parce que c'est pour moi une sorte de catharsis et c'est vraiment coucher les émotions sur le papier. Ça m'a énormément aidée à lever le voile, à lever le masque progressivement. J'ai abattu le décor en papier mâché et le masque, je l'ai arraché au fur et à mesure. Il est pas tombé d'un coup tout seul. Il a été arraché, ça a été douloureux, mais salvateur. Et c'est après, il n'y avait plus rien dessous, il y avait mon vrai visage. Et ça faisait peur de se regarder dans le miroir, du coup, de se dire « Waouh, en réalité, je ne suis pas comme j'ai cru que j'étais tout ce temps. » Et il va falloir s'adapter au nouveau visage et apprendre à l'aimer. Et c'est là qu'est la clé aussi. Apprendre à s'aimer, c'est vraiment, c'est pas se dire « ouais, je suis trop belle devant le miroir », ça n'a rien à voir. Tout ce que j'ai vécu de difficile, c'est moi qui l'ai créé. Je suis pas un monstre pour autant. Voilà. Mais ça, c'est difficile de se le dire parce qu'on a tendance à énormément culpabiliser, surtout quand ça touche l'entourage. Et au final, non, on n'est pas un monstre. On a tous une part d'ombre, on a tous une part de lumière. D'ailleurs, la part de lumière, elle n'est pas forcément hyper agréable. Ce n'est pas le pays des bisounours. Hein. C'est très, très difficile. D'ailleurs, quand on enlève le masque et qu'on aperçoit sa lumière, ça fait très mal aux yeux. Parce qu'on ne se rend pas compte, des fois, de toute la beauté qu'on peut avoir à l'intérieur. Et la beauté, ce n'est pas forcément quelque chose de conventionnel. Ce n'est pas le bien pensé, je donne de l'argent aux mendiants, voilà, je suis une bonne personne, c'est comme ça. Non, vraiment, la beauté, la lumière, c'est être, en fait. C'est être sans vouloir par être. Arriver à faire la distinction des deux, et c'est très, très difficile. Très, très difficile.
Mais ton entourage, quand ils ont vu que tu leur dis, comment ça s'est passé pour eux?
Pardon, je me suis envolée.
Mais c'est génial, mais moi j'aime bien. En plus, on a eu plein d'infos.
L'entourage. Alors au début, effectivement, quand le décor est tombé, ils n'ont pas compris, mais mes proches, en tout cas, étaient là. Juste avant de défaire ce masque, je me voyais comme un monstre. Et c'est peut-être eux qui ont été le miroir, justement, à me dire, bah non, t'es pas un monstre, t'es juste humaine, en fait. Même s'ils ne comprenaient pas la démarche, ils ont été là. Et ça, c'est juste énorme. Et je les remercie infiniment. Les gens qui nous aiment réellement n'ont pas à adhérer forcément à ce qu'on fait, à nos choix, mais ils les acceptent. Mes parents, à l'époque, me disaient « mais ça va pas bien », mais bon, ils étaient là quand même. De voir tout ce qui s'est passé après, aujourd'hui, ils me disent « ben oui, sur le coup, on n'a pas trop compris, mais maintenant, on comprend, en fait, puisque tout s'est bien passé ».
Alors ça, c'était l'entourage très proche. Si on élargit un peu le cercle, l'entourage professionnel, comment ça s'est passé ? Ça s'est passé.
C'est très récent d'ailleurs. En fait, ça s'est fait en plusieurs fois, ce coming out. L'ultime fois, c'est celle que je viens de vivre ces derniers mois, où j'ai vraiment commencé à en parler autour de moi. Ça s'est fait progressivement. Et au final, ça a plutôt bien été accueilli. Parce que ça a ouvert un dialogue et on se rend compte que tout le monde est intéressé, même si la personne n'est pas là-dedans, qu'elle est très terre à terre. Il y a quand même un intérêt, une curiosité, et c'est super enrichissant en fait d'échanger avec tout le monde. Mes proches, mes parents l'ont toujours plus ou moins su, même avant que moi je m'en rende compte en réalité. Pour l'entourage un peu plus étendu, c'est né d'une conversation avec mon conjoint qui me disait « mais tu vois pas que tu t'enfermes avec tout ça ?» dans ton petit monde. Et attention, parce que les gens qui vivent ce genre de choses, tu vois bien, les sorcières, à l'époque, elles étaient conspuées. On ne parle pas de sorcières avec une famille, des enfants, un mari. Voilà. Sur le coup, ça atteint un point sensible chez moi. Et je lui ai dit, mais la sorcière moderne, alors ? C'est sorti comme ça. Et alors, la femme d'aujourd'hui, qui ressent des choses et qui vit sa spiritualité, elle n'a pas le droit d'avoir une vie comme Madame Tout-le-Monde. Et ça m'a turlupinée. Et dans la nuit, et d'un coup, je me suis réveillée avec des yeux grands écarquillés. Je me suis dit, la sorcière moderne.
Mais bon sang, mais c'est ça.
Voilà, c'était Eureka, la sorcière moderne, c'est ça. Et j'ai eu un espèce d'élan et avec plein d'idées en tête, je me suis dit, voilà, en fait, j'ai envie de partager tout ce que je peux vivre et de dire, mais chacun est à même de vivre comme il l'entend et pas de suivre un consensus qui a été érigé depuis la nuit des temps, mais on ne sait pas par qui, au final. J'arrivais pas à me référer à quelque chose qui ressemble ou qui me disent ben lâche-toi la bride et vis-le comme tu l'entends. C'était plus du style il faut faire ça, il faut faire ci, les rituels là, les esprits, les mauvais, les malins, les machines, enfin tout ça quoi. Et ça me parlait pas du tout. Et je me sentais pas du tout harcelée par des esprits malins. Enfin, je me voyais pas. Et pourtant, j'ai fait des choses complètement saugrenues en suivant tout ça.
Qu'est-ce que tu as fait de saugrenu ?
Ouh là là. Non, mais des choses... voilà, j'ai un peu suivi le mouvement, faire des nettoyages de maison, je veux dire, des nettoyages au sens énergétique. Hein, pas, je ne sais pas comment... Ça ne me parlait pas. Ouais. Voilà. Je ne me vois pas dans un monde où il y a des esprits malins, où il y a des bons, des gentils anges. Je me vois dans un monde où on a tous l'ange et le démon à l'intérieur de nous et qui se manifestent intempestivement plus l'un que l'autre. Et c'est juste à trouver un équilibre entre les deux. Il n'y a pas un côté ou l'autre.
Et puis voilà. C'est celui aussi que tu choisis de nourrir qui prend plus de place que l'autre.
Ce que je veux dire, c'est que l'ombre, elle est pas, c'est pas un ennemi. Tout le travail sur soi revient au final à trouver cet équilibre entre les deux. Enfin, l'alignement, il est juste entre les deux, quoi. Il n'est pas d'un côté ou de l'autre.
Et toi, au fur et à mesure de ton coming out, puisque j'ai compris qu'il s'était déroulé en plusieurs étapes, quelles sont les peurs que toi, tu as su dépasser ?
L'inconscient collectif nous nourrit de plein d'images et plein de représentations, de choses. Voilà, on nous dit c'est comme ça et pas autrement, puis il y a telles entités, il faut faire ci comme ça.
On a aussi toute une culture cinématographique pour faire du sensationnel qui
véhicule
certaines images. Après, elles sont vraies, elles sont pas vraies, c'est pas le débat. C'est est-ce que ça résonne ou pas en toi ? Et du coup, là, quand tu parlais d'inconscient collectif, effectivement, quand tu mets un mot sur quelque chose, tu n'as pas forcément l'image ou une histoire qui a été vue des milliers et des milliers de fois, véhiculée par Hollywood, par exemple.
Et voilà, et donc au final, on s'en réfère à ça inconsciemment. Et ça peut générer des peurs, justement. Et je suis passée par là parce que je me suis retrouvée, justement, à adhérer à ça alors que ça ne résonnait pas en moi. Mais bon, quand même, j'y suis allée. Mais au final, pourquoi on a peur ? La peur que j'ai su dépasser, en tout cas, c'est de me dire, mais pourquoi j'avais peur quand j'étais petite de tout ce que je ressentais ? Pourquoi j'avais peur de ces esprits malins quand j'ai commencé à m'y intéresser ? Ben, tout simplement parce que c'est une perception. C'est quelque chose que je crée. Encore une fois, parce que c'est alimenté par des lectures, c'est alimenté par des histoires qu'on nous raconte, c'est alimenté par le cinéma, c'est voilà. Et au final, on se crée un petit monde et tout ce en quoi on pense prend forme réelle et on y croit et on le voit. Tout ce qu'on croit de toute façon devient réel. En fait, cette peur-là, elle se projette dans la réalité. Elle prend forme humaine, enfin humaine, matérielle.
Ouais.
Et voilà, alors à partir du moment où on se dit « Non mais attends, là, réfléchis deux secondes, si déjà tu as peur de quelque chose que tu ne connais pas, est-ce que c'est pas ça réellement ? C'est plus c'est parce que tu ne connais pas que tu t'imagines un tas de choses qui te font peur. Mais en réalité, est-ce que ce qui est au-delà et que tu ressens, est-ce que c'est réellement flippant ? Ça, il n'y a personne pour le dire.
Parce que tu aurais aimé recevoir des conseils, et si oui, lesquels ?
Je pense que je ne les aurais pas écoutés.
Ah.
Non, mais vraiment. En fait, c'est même pas... J'imagine, c'est vrai, je ne les ai pas écoutés. J'ai reçu des conseils. Si tu fais ça, ce n'est pas pour rien. Tout n'arrive pas par hasard. Toutes ces phrases, effectivement. Mais moi, je ne les entendais pas. J'étais tellement dans le brouillard et tellement dans la douleur que je ne les entendais pas. Mais par contre, c'est la graine. Et c'est ce en quoi consiste aujourd'hui mon travail. C'est à planter des graines, en fait, parce qu'on se rend compte qu'il y a certaines personnes qui sont prêtes à accueillir le conseil, en fait, mais elles sont déjà dans une avancée personnelle, donc elles sont dans l'accueil de ce qui peut les faire avancer sur leur chemin, alors que, tandis que, comme je l'étais à l'époque, j'étais complètement fermée parce que j'étais vraiment dedans, dans la douleur, dans la souffrance, et j'avais pas encore dépassé ce stade de me dire que c'était moi qui était à l'origine de ça. Donc, au final, les conseils, je les écoutais pas. Il y a des mots, et c'est pas forcément des conseils d'ailleurs, mais qui nous restent en tête, et ça éclot plus tard. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on repense à cette phrase, ou ce mot, ou ce geste, ce regard, peu importe, et on se dit, ah ouais. À ce moment-là, il s'est passé quelque chose et ça résonne aujourd'hui. Ça a mis du temps. L'écho, en fait, a été long. On l'entend un peu plus tard, mais voilà, il résonne.
Donc, tu parlais tout à l'heure de graines, tout ce qui est à l'origine. Et justement, c'est une transition parfaite pour la question suivante. C'est parmi les livres que tu as lus quand tu étais enfant, lesquels t'ont marqué et dont tu te souviens encore ?
Le seul qui m'est vraiment, vraiment influencée quand j'étais petite, c'est le journal d'Anne Frank. Alors, ce n'est pas un livre que j'ai adoré, parce que bon, l'histoire, elle est un peu dure, quoi. Depuis ce temps-là, j'écris dans des carnets et c'est vraiment ce qui a donné, voilà, ça a été la graine, l'impulsion de faire quelque chose et qui m'accompagne encore aujourd'hui. Et c'est là qu'on prend conscience, justement, que ce qui est douloureux à vivre est juste... une porte ouverte vers son âme.
Quelles sont les trois personnes que tu aimerais rencontrer au cours de ta vie ?
Il y a une personne que j'aimerais rencontrer, mais elle n'est plus de ce monde, malheureusement. c'est mon arrière-grand-mère maternelle. J'ai entendu des petites histoires à son sujet. J'ai cru comprendre qu'elle vivait le même genre de choses que moi, en fait, au niveau des connexions mystiques et des choses un peu connotées paranormales, mais qui pour moi ne sont pas paranormales. Si je pouvais la rencontrer, alors ce serait possible. C'est vraiment elle. Je pense qu'il y a énormément de choses à dire, à transmettre.
Quelle serait la toute première question que tu lui poserais ?
Comment elle l'a vécu ? Enfin, est-ce qu'elle l'a bien vécu ? Est-ce que ça, qu'est-ce que ça lui a apporté ? Et comment elle s'en servait ? Voilà.
Si tu avais le pouvoir d'offrir trois dons à un enfant qui vient de naître, lesquels tu lui donnerais ?
La seule chose que j'aimerais transmettre à un enfant, c'est de garder son regard d'enfant toute sa vie. C'est vraiment ce qui importe. Après, voilà, j'ai eu du mal à quitter l'enfance et j'ai eu du mal à devenir adulte, enfin, me sentir adulte en tout cas, parce que je ne voulais pas quitter ce regard-là, parce que ça ne m'intéressait pas de devenir quelqu'un de... Après, j'avais une image très négative des adultes, de quelqu'un de barbant, de très responsable et tout ça. Je le voyais vraiment, c'était un tableau noir, quoi.
Est-ce que tu as une devise que tu voudrais partager avec nous ?
Ce qui est vrai aujourd'hui ne le sera plus demain. Donc, il y a une remise en question un peu permanente qui peut être déstabilisante, je l'avoue. Mais voilà, en fait, en tout cas, c'est ce que je vis tout le temps, c'est ce qui était vrai hier, la façon dont je pensais hier, elle sera peut-être pas celle que la même que demain. Et heureusement, parce que ça voudra dire qu'il y a eu évolution.
On reste sur les enfants avec le côté, on va dire, très jeune et les adultes sont un peu barbants. Mais justement, est-ce que tu avais un métier que tu rêvais de faire quand tu étais enfant et si oui, c'était quoi ?
Justement, je l'avais écrit dans un de mes carnets. Quand je devais avoir 9 ans, quelque chose comme ça, j'avais écrit « Quand je serai grande, je veux être écrivain et chanteuse et rien d'autre ». Je l'ai souligné 3 fois. Bon, je ne suis ni l'un ni l'autre, mais je pense que ça fait appel à un terrain d'expression, en tout cas qui m'est très cher. Et c'est vrai qu'écrire, c'est une méditation pour moi aussi quelque part.
À quel moment devient-on un écrivain ou écrivaine si on a envie de le féminiser ? C'est est-ce que à partir du moment où on est publié ou à partir du moment où on a d'autres personnes qui nous lisent, tu vois ?
C'est vrai.
En tout cas, bon, ce n'est que personnel, mais j'adore la façon ce que tu écris et la façon dont tu écris. Donc, en tout cas, de mon point de vue, tu es déjà écrivaine. Je t'ai pas encore entendu chanter. Oh. Je ne peux pas me prononcer.
Je vais pas me risquer à ça. Hein.
Mais dans la première partie, écoute, tu vois, pour moi, c'est déjà coché. Qu'est-ce que tu emportes sur une île déserte ?
Ma famille, ouais. Parce qu'on est très soudés et c'est vrai qu'on n'est rarement pas ensemble. De quoi écrire, justement, et de quoi lire aussi, et de la musique, ouais.
Quelle est la rencontre qui t'a marquée ?
Il y en a un tas. Il s'est passé plein de choses bizarres dans ma vie. Et si j'avais un seul exemple à garder, peut-être, ça serait cette fois. Oui, c'était quand même assez particulier. J'étais beaucoup plus jeune, et donc encore étudiante, et j'étais je me noyais dans un brouillard un peu émotionnel et sentimental. Enfin, c'était un peu compliqué. Et un jour, j'ai ressenti un élan d'aller à un endroit particulier en fin de journée, donc en sortant des cours. Et vraiment quelque chose de très très fort. Et ce n'était pas un endroit où j'avais l'habitude d'aller en fait. Et donc j'ai suivi cet élan-là et je me suis rendue, c'était sur une colline. Et en fait, je me suis dit, c'est parfait parce que j'ai vraiment besoin de tout lâcher là, parce que sinon je vais vraiment exploser. Et donc, je me suis retrouvée sur cette colline et assise sur mon capot de voiture et à pleurer pour vraiment me libérer. Je ne savais pas pourquoi j'étais là, mais j'en profitais du coup d'être dans la nature et de lâcher tout. Et puis, quelqu'un arrive. Donc, j'entends quelqu'un marcher et je me dis, oh non, pourvu qu'il ne vienne pas vers moi, ce n'est pas le moment. Là. J'ai le mascara qui dégouline, enfin, j'ai une tête horrible, quoi. Et donc, il s'approche tout doucement et en fait, il me demande si ça va. Et vu ma tête, il a vite compris que ça n'allait pas. Et là, en fait, il me dit, je t'inquiète pas, je veux pas te faire peur, mais qu'est-ce qui se passe, etc. Et j'arrivais tellement, enfin, j'étais pleine de sanglots, j'arrivais pas à parler. Et il s'est rapproché, il m'a dit, je te veux pas de mal, je suis pas là pour t'embêter, te draguer ou quoi, mais je vois que t'es pas bien. En fait, je pense qu'il croyait que j'allais sauter, je pense, dans le vide, mais c'était pas du tout mon intention. Et mais c'était mignon, quoi. C'était simple, voilà. Ouais. Et il est venu vers moi, il m'a raconté son histoire. Il m'a dit, voilà, j'ai vécu une passion amoureuse, elle s'est terminée et ça m'a fait mal. Mais en fait, cette douleur-là, c'est le témoin de quelque chose de beau qui s'est passé dans ma vie. Et ça, on ne peut pas penser que c'est du mal, en fait. Et m'expliquer ça, et ça résonnait, parce que c'était, en fait, c'était exactement ce que j'avais besoin d'entendre. Et il m'a dit, je peux te serrer dans mes bras, donc il m'a pris... Moi, j'ai rien dit, hein. Tout du long, je n'ai rien dit. Il m'a juste raconté son histoire, il m'a dit ces mots-là, il m'a pris dans ses bras, et il est parti. Et juste avant, il m'a dit dans l'oreille, est-ce que tu connais Jacques Brel ? J'ai dit oui. Il me dit, alors tu dois connaître ces mots-là. Il m'a dit, on n'oublie pas, on s'habitue. Et là, il est parti, mais il m'a. En fait, c'est comme s'il était parti avec toute cette douleur que j'avais en moi. C'était incroyable. C'est là que je me suis dit, waouh, en fait, il se passe des choses complètement folles qui sont hors de portée. Ce type, je ne le connaissais pas. Il avait, je ne sais pas, cinquantaine, soixantaine. Enfin, je ne l'avais jamais vu et il ne me connaissait pas non plus. Mais il m'a abordé avec tellement de douceur et de bienveillance et il a compris, en fait, ce qui se passait en moi.
Comme une énergie et angélique.
C'est ça, exactement. C'est tout à fait ça que j'ai ressenti. Et ça m'a fait un bien fou. Et il m'a libérée sur le moment de tout ça, de tout ce brouillard-là. Et je suis repartie sereine et vraiment apaisée. Et c'était ça, ça fait voilà, une des belles rencontres. Alors que je ne l'ai plus jamais revue après ou quoi, mais... Et je n'ai pas cherché non plus à savoir qui c'était réellement. Mais c'est vraiment, j'en ai un souvenir. Je trouve ça juste beau. Mmh. Voilà.
Bon, bah de cette beauté, on va redégringoler dans des émotions sur quelque chose de très terre à terre.
Ah oui.
C'est l'ordre des questions. C'est aussi la limite de cet exercice. Mais c'est quelle est l'appli indispensable dans ton téléphone, Suzy ?
Vraiment indispensable, je dirais... Spotify. Ça pourrait être Instagram, j'aime beaucoup, je passe du temps dessus et puis il y a des rencontres super qui se font vraiment par ce biais-là. Mais la musique, c'est tellement important pour moi que si je devais avoir qu'une application, ça serait celle-là. Tant pis si je me perds en route parce que j'ai pas le GPS et que j'ai aucun sens de l'orientation. Tant pis si j'ai pas de quoi forcément communiquer. Mais la musique, c'est toute ma vie.
Quelle est ta série télé préférée ?
J'ai beaucoup aimé Dexter. Jamais ça n'a rien à voir avec tout le reste. Et The Walking Dead. J'étais, en fait, pour ces deux séries, j'étais super réticente parce que Dexter, au début, les découpages de corps, merci, mais c'était un peu visuellement dérangeant pour moi en tout cas. Et Walking Dead, les zombies, j'aime pas ça du tout à la base, ça me parle pas. Mais par contre, voilà, j'ai quand même mis le pied dedans. Je suis un peu comme ça. Hein. Des fois, j'ai des a priori sur des trucs. Ça va mieux maintenant, mais j'étais beaucoup voilà, avec des a priori. Et au final, j'y vais quand même. Et après, j'ai dit, c'était génial. Tu m'en as demandé qu'une, mais moi, je t'en... Voilà, c'est toujours voilà, l'esprit rebelle, contradictoire.
Rebelle jusqu'au bout.
ça s'appelle Dark. Je ne sais pas si tu connais. Elle est sur Netflix. Et ça parle du voyage dans le temps. Mais de façon, c'est vachement bien abordé et ça, vraiment, j'ai trouvé ça très très intéressant parce que pour une fois que ce thème-là est abordé de façon, je dirais, intelligente et vraiment, ça, c'était vraiment bien réalisé. Donc voilà, celle-là, ouais, regardez Dark.
Quel est l'endroit sur Terre qui te ressemble ?
Le bord de mer un peu sauvage, un peu loin de, de toute l'agitation urbaine et moderne et tout ça. J'ai une connexion avec la mer, je ne sais pas d'où ça sort, parce que j'ai déjà vécu dans les terres et j'étouffe. L'horizon, c'est l'ouverture vers toutes les possibilités. Enfin, il y a vraiment, et puis l'eau, ça apaise. Ça fait un peu peur aussi, hein, ça peut faire peur, mais c'est enveloppant. Je ne sais pas dire, voilà, c'est moi.
C'est toi. De quoi es-tu reconnaissante dans la vie ?
De tout. De tout. Des gens que je rencontre, de ma famille, de tout ce que je peux avoir. Tout est parfait, en fait. Je suis reconnaissante de tout.
D'accord. Et pour finir, quels sont les conseils que tu as envie de donner à quelqu'un qui n'oserait pas pousser la porte de son propre placard spirituel ?
Fonce. Vas-y, défonce la porte. Défonce la porte du placard. Parce que dans le placard, on est dans le noir, en fait. Il faut ouvrir cette porte pour respirer, déjà. Parce que si on reste dans le placard, on étouffe. Donc, vas-y, défonce la porte. Ouvre-la. N'aie pas peur de l'ouvrir. Parce que derrière, il y a la lumière, et il y a l'air, et il y a tout ce qu'il faut pour s'épanouir.
Merci beaucoup, Suzy, pour ce moment partagé. Je te dis à très bientôt.
À bientôt, merci.
Voilà, Alev, c'est fini pour aujourd'hui. Pour retrouver toutes les informations et les coordonnées de mon invité, rendez-vous sur le site internet alecoutedesavoie.fr. Et voix, c'est V-O-I-E. Vous trouverez aussi toutes les ressources mentionnées dans cet épisode. J'espère que vous avez aimé ce que vous avez écouté. Si c'est le cas, vous pouvez soutenir le podcast en mettant un maximum d'étoiles sur Apple Podcasts afin de faire grimper la visibilité d'À l'écoute de sa voix. C'est de cette manière que vous pouvez aider concrètement le podcast à monter dans le classement. Votre soutien est important, je compte sur vous. Parlez-en autour de vous, abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré et même sur YouTube. Si vous souhaitez aller encore plus loin et accéder à ce que j'envoie aux membres de la communauté Alev, vous pouvez vous abonner gratuitement sur alecoutedesavoie.fr. Vous pouvez découvrir aussi en avant-première la personnalité du prochain épisode sur le compte Instagram du podcast, alecoutedesavoie.podcast ou sur Facebook. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout. Le podcast revient dans 2 semaines. D'ici là, prenez soin de vous.